RFI, vous écoutez la Radio du Monde. Bienvenue, 1h à Paris, minuit en temps universel.
Antoine Galen.
À la une de l'actualité, Mayotte. François Bayrou s'est rendu sur l'archipel pour y dévoiler un plan de reconstruction. Au programme, le rétablissement de l'eau et de l'électricité. Une pluie d'hommage après le décès de Jimmy Carter, 39e président américain. Une journée de deuil national se déroulera aux États-Unis le 9 janvier prochain. Et puis, après le crash d'un avion en Corée du Sud qui a tué 179 personnes, une enquête a été lancée, mais les familles des victimes demandent surtout à ce que les corps soient restitués.
RFI.
Reconstruire Mayotte en 2 ans. Déclaration de François Bayrou lors de sa visite sur l'archipel 2 semaines après le passage du cyclone Chido. Avec 5 de ses ministres, il s'est rendu dans une usine de dessalement et un collège de Mamoudzou. Le nouveau Premier ministre a annoncé le plan Mayotte debout, une série de mesures. Parmi elles, le retour de l'électricité dans tous les foyers d'ici fin janvier. Le rétablissement de la production d'eau à son niveau d'avant-cyclone. Concernant les bidonvilles, François Bayrou veut empêcher leur reconstruction. En conférence de presse, il a également promis 2 lois.
Une loi d'urgence sera présentée en Conseil des ministres le 3 janvier, avec une présentation au Parlement sous 15 jours. Un établissement public de refondation de Mayotte, sur le modèle de l'établissement public de Notre-Dame, sera décidé le 3 janvier. Une loi programme de refondation de Mayotte, préparée et conçue avec les élus de Mayotte, sera mise au point dans les 3 mois. Et enfin, un recensement général et précis de la population sera organisé à Mayotte sous l'autorité des maires avec une mission dédiée par l'État pour chacune des communes. Ce recensement général et précis est une opération vérité qui permettra de sortir des ambiguïtés et des incohérences que beaucoup d'élus ont signalées sur l'appréciation numérique de la population.
François Bayrou qui a quitté l'archipel, direction La Réunion. Journée de deuil national aux États-Unis le 9 janvier prochain, en l'honneur de l'ex-président américain Jimmy Carter, décédé dimanche à l'âge de 100 ans. Des funérailles nationales qui vont durer plusieurs jours et se termineront à Washington dans 1 semaine.
À partir de ce vendredi, la dépouille de Jimmy Carter sera présentée 2 jours à Atlanta, en Géorgie, au sein de la Fondation Carter, l'ONG qu'il a fondée avec sa femme à la fin de son mandat présidentiel en 1982 et où il était très impliqué depuis à la résolution des conflits notamment. Lundi prochain, il sera transporté à Washington, installé dans la rotonde du Capitole sous le dôme, comme l'ont été plusieurs présidents avant lui. C'est là que des milliers de personnes sont attendues pour lui rendre hommage. Le soir, une messe de funérailles aura lieu dans l'imposante cathédrale nationale de Washington. En dehors de Joe Biden, qui prononcera l'éloge funèbre, on ne sait pas qui d'autre s'exprimera, ni si le président élu Donald Trump sera présent. Enfin, Jimmy Carter sera ramené chez lui, dans son village rural de Plains, en Géorgie, où il sera enterré sous un saule pleureur, juste à côté de sa modeste maison où il vivait depuis 1961 et qui va devenir un musée. Il rejoint son épouse, Rosaline, décédée l'an dernier et avec qui il a partagé 77 ans de sa vie.
Les précisions de Carlotta Morteo du service international d'RFI. Les Américains doivent reconnaissance à l'ancien président Jimmy Carter, réaction de Donald Trump. Le futur président des États-Unis condamné en appel à payer 5 millions de dollars pour agression sexuelle par la cour d'appel de New York. Une autrice qu'il avait agressée sexuellement dans les années 1990 et diffamée lorsqu'elle avait révélé les faits plus de 20 ans après. En France, il y aura un nouveau procès dans l'affaire des viols de Mazan fin 2025. 17 des 50 hommes reconnus coupables ont fait appel, à l'inverse de Dominique Pellicot, celui qui avait été condamné à 20 ans de réclusion pour avoir drogué sa femme Gisèle afin de la violer et la faire violer par d'autres hommes. RFI, 9h04 à Séoul, en Corée du Sud, après le crash d'un avion de la compagnie Jeju Air ce dimanche, ayant fait 179 morts. Une inspection d'urgence de toutes les opérations aériennes du pays a été ordonnée. Les enquêteurs tentent toujours d'identifier les causes exactes de l'accident d'avion le plus mortel de l'histoire du pays. Alors qu'un deuil national de 7 jours a été déclaré, l'identification des victimes se poursuit. Une trentaine de victimes restent à identifier, mais les proches réclament surtout que les corps leur soient restitués. Nicolas Roca.
Les conditions du crash compliquent la restitution des victimes à leurs proches. L'avion a explosé contre un mur en béton en fin de piste, détruisant les corps. Les autorités espèrent les reconstituer avant de les rendre à leur famille d'ici 10 jours. Un délai trop long pour Park Hanshin, qui a perdu son frère dans le crash. Ému aux larmes, il a porté la voix des familles endeuillées devant les caméras des agences de presse lundi.
Ils disent que les corps sont tellement endommagés qu'il faudra beaucoup de temps pour les restituer. Je pense que ce que nous devons exiger du gouvernement, c'est qu'il engage plus de personnel pour pouvoir restituer le corps de mon frère et celui de toutes les victimes plus rapidement, même s'ils sont intacts seulement à 80%.
Park Hanshin espère aussi voir Jeju-er faire des efforts supplémentaires pour les proches des victimes.
La seule manière pour que les familles endeuillées aient l'impression que la compagnie aérienne a fait tout son possible pour aider les familles, c'est avec une aide financière. Pourquoi ? Parce que des chefs de famille sont morts, des parents sont morts, il ne reste que les enfants. Et comment peuvent-ils vivre tout seuls ? Ni les fonctionnaires de la province, ni le gouvernement ne peuvent aider à résoudre ce problème.
Le désespoir des familles se dirige vers Jeju-er. Des images sur les réseaux sociaux montrent des proches des victimes hurler sur le dirigeant de la compagnie aérienne.
Après le crash d'Azerbaïdjan Airlines qui a fait 38 morts au Kazakhstan, la Russie a promis d'identifier et de punir les personnes impliquées dans l'accident. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a affirmé dimanche que l'avion qui effectuait la liaison Bakou-Grozny avait subi des tirs au-dessus du territoire russe. Il a également accusé Moscou d'avoir voulu cacher sa responsabilité dans ce crash et réclamé des excuses publiques ainsi que des compensations. Les boîtes noires ont été envoyées au Brésil. C'est à partir d'aujourd'hui que le règlement sur les marchés de cryptoactifs entre progressivement en vigueur. Un règlement à l'échelle du continent européen qui met en place une supervision des crypto-monnaies, un marché en pleine ébullition outre-Atlantique. Agnieszka Kumor.
Si l'engouement des investisseurs pour les actifs numériques est fort, le marché des crypto-monnaies, lui, est largement non régulé et donc non sans risque pour les consommateurs et pour la stabilité du système financier. Des risques qui n'ont fait que grandir avec l'explosion des cours du Bitcoin. Le nouveau règlement européen porte un nom, MiCA, pour Markets in Crypto Assets. Sa mission, protéger les investisseurs et lutter contre le blanchiment d'argent. Ainsi, l'entreprise qui souhaiterait fournir ses services en matière des cryptoactifs sur le marché européen devra demander une licence auprès d'un régulateur des marchés financiers. Le but, c'est de rapprocher le secteur des crypto-monnaies des standards en vigueur dans le secteur bancaire et financier traditionnel grâce à plus de transparence et une traçabilité renforcée. Si la France a pris quelques longueurs d'avance grâce à la loi Pacte votée en 2019, d'autres États membres sont en retard. La mise en place de MiCA devrait ainsi permettre d'harmoniser les pratiques au niveau européen tout en rassurant les marchés.
Agnieszka Kumor du service économie d'RFI. Une page de sport avant de terminer ce journal. Yannick Bestaven, le vainqueur du dernier Vendée Globe, a annoncé son retrait de la course alors qu'il venait de passer le Cap Horn en 11e position. Il va devoir mettre pied à terre pour réparer plusieurs avaries, notamment sur son système de barre. Il se dirige vers Ushuaïa où il sera rejoint par son équipe technique. Cette escale le met donc hors course, le Vendée Globe étant une course en solitaire et sans escale. Mais malgré la déception, Yannick Bestaven est heureux d'avoir franchi le Cap Horn. Solène Ravanel.
Voilà, il est là, le Cap Horn.
D'arriver au Cap Horn, même si je dois m'arrêter maintenant à Ushuaïa pour réparer, et ben ça a été une sacrée épreuve et j'aurais fait les trois caps. Je dois abandonner le Vendée Globe maintenant pour voir la suite, comment ça se passe, si ce bateau est réparable, pour continuer mon chemin. Même si je suis hors course, j'aimerais rallier les Sables d'Olonne en solitaire.
Et pendant ce temps-là, loin devant, les deux leaders, Johan Richaud et Charlie Dalin, sont toujours au coude à coude dans leur remontée de l'Atlantique. Et puis en football, avant de terminer ce journal, troisième défaite de suite en Première Ligue pour Manchester United qui s'incline face à Newcastle 2-0. Les joueurs de Ruben Amorim sont 14e du championnat. De son côté, Chelsea manque de réalisme et perd 2-0 face à Ipswich malgré 76% de possession. Il est bientôt 1h10 à l'écoute de RFI. Merci à vous d'écouter ce journal. Le prochain est dans une heure.